Une corneille s'est imposée sur un fil et elle n'a pas survécu et elle est devenue une crispy critter.
Et la panne du 28 novembre à Laval, vous auriez pu nous aviser.
Après avoir écouté cet épisode, on recevra plus un seul commentaire sur les pannes sur les médias sociaux.
Nous, on aura plus, on aura plus de travail. Là,
c'est ça.
Bonjour, je m'appelle Francis Labbé, porte-parole d'Hydro-Québec. J'ai le plaisir d'animer pour vous une nouvelle série balado qui s'intitule « Votre tweet est important pour nous ». Parce que oui, vous nous envoyez plusieurs commentaires sur les différentes plateformes de médias sociaux et on s'affaire d'y répondre le plus souvent possible de la manière la plus intelligente possible. Donc cette série-là, on fera le palmarès des sujets pour lesquels vous nous envoyez plusieurs questions. On invitera des expertes et des experts pour y répondre, pour apporter leur éclairage sur ces sujets-là. Autour de la table, il y aura également les gestionnaires de communautés, celles et ceux qui vous répondent tous les jours, à commencer par Gabrielle Leblanc, la dernière recrue, la toute nouvelle recrue de cette équipe-là.
Bonjour.
Monsieur Pierre-Alexandre Buisson.
Hello.
Et Jonathan Côté.
Bonjour, Francis.
Une présentation qu'on vous demande peut-être de vous présenter entre vous, histoire de varier un peu les choses.
Ben oui, moi je vais commencer par la plus récente arrivée dans l'équipe.
Je pense que tu es allé trouver sur sa bio sur Instagram, c'est ça?
Oui, exactement. J'ai trouvé sa bio sur Instagram parce que c'est aussi notre Insta-babe. Hein? C'est une milléniale qui tripe sur les réseaux sociaux d'emblée. Je pense que ça vient avec la génération de ces gens-là. Sa biographie se lit comme suit. Fille de bureau passive-agressive, signe d'éclair. Et powerlifter, je fais des vidéos de mes cafés et je bench plus que toi.
C'est ça, c'est quand même gênant, hein, se faire ressortir sa bio Instagram. Ben c'est ça, hein, une petite référence au travail qu'on fait sans nécessairement trop le dire. Je pense que je ne bench pas plus que notre invité du jour, mais on aura la chance de le présenter tantôt.
Jonathan,
tantôt. Moi aussi, je suis allé m'inspirer de la bio Instagram de PA. Il dit « Médias sociaux chez Hydro-Québec ». Vraiment. Qui l'eût cru?
Directement.
Théâtre chez Bible Urbaine, jazz, black metal, wine and books, Hochelaga.
T'as oublié l'emoji de chauve-souris? Moi, ça m'a quand même intrigué là.
C'est vrai. Comment c'est l'emoji de chauve-souris? Peux-tu nous expliquer ça?
Pour aller avec le black metal puis le fait que je suis un bougon nocturne.
Ben, moi, je vais présenter notre boomer. J'ai été vérifier sa bio sur Instagram, mais il n'en a pas. C'est un peu gênant pour un gestionnaire de réseaux sociaux, donc j'ai été voir sur Facebook. J'ai appris qu'on peut faire des bios sur Facebook. Je pensais que juste les personnes un petit peu plus vieilles faisaient ça. Je vais quand même vous la lire. Alors, Jonathan, sa bio, c'est une fois l'histoire d'une bio en 100 caractères sur Facebook, mais malheureusement, c'est fini.
Je vois, c'est plate, on ne pouvait pas mettre plus de texte. C'est comme, comment tu veux que je me présente en 100 caractères?
Mais que dire sur Jonathan, un fier papa de banlieue chez Hydro-Québec depuis toujours. C'est un peu grâce à lui, hein, si maintenant on a un ton un petit peu plus corsé qui est apprécié du public.
Oui, justement, on aura l'occasion d'y revenir. Dans chaque épisode, on fait un tour de table. On aimerait vous entendre, là, dans le fond, sur les sujets que vous avez vus passer dernièrement et qui ont retenu votre attention. Pierre-Alexandre?
Oui. Ben en fait, on a eu un beau commentaire d'un certain Philippe qui nous dit, pendant une panne qui nous avait écrit sur Facebook, qui nous avait dit « Concentrez-vous pour réparer le courant. » En insinuant qu'à place de mettre des messages sur l'état des pannes sur nos médias sociaux, on devrait, nous, aller sortir du bureau puis aller réparer les pannes nous-mêmes.
Vous voulez pas voir ça?
Ben Philippe, on est 21 000 employés hein, chez Hydro-Québec, puis chacun son expertise, heureusement. Parce que moi, je me verrais pas avec une chaîne ça en train d'essayer de dégager un arbre.
Moi, je te verrais avec une chaîne ça.
Ouais.
Dans Hochelaga avec ta chauve-souris.
Mais oui, en fait, une question qui revient souvent, c'est pourquoi on est sur les médias sociaux en tant que société d'État puis d'organisme parapublic. Ben, on est sur les médias sociaux parce que le réflexe numéro un des gens en 2022, quand ils veulent s'adresser à une entreprise, ils sortent leur téléphone de leur poche, mais ils appellent pas. Ils vont sur Facebook ou sur Twitter pour interpeller les gens. Donc, nous, on est la première ligne. On fait pas vraiment de service à la clientèle. On fait davantage des relations publiques en tant que gestionnaire de la communauté. Mais on est vraiment la première ligne, les dignes représentants, la voix, en fait, de l'entreprise sur les médias sociaux. Puis on est en quelque sorte des porte-parole numériques pour l'entreprise.
Et il y a eu une évolution dans les dernières années, justement, Jonathan. C'est quelque chose que tu peux aborder pour nous?
Oui, bien, en fait, ça arrive souvent qu'on a expliqué notre travail. Puis une des questions qui revient le plus souvent, c'est comment vous en êtes arrivé là? T'sais? Est-ce que comme un matin, t'es allé comme cogner à la porte du bureau du PDG et t'as dit « Là, ça va faire, on va arrêter d'être plate, ces médias sociaux, puis on va être drôle, tu sais. Puis c'est drôle ça ce que j'ai fait. Mais non, pas mentir. Non, en fait, dans les faits, ça a été beaucoup plus progressif que ça. L'entreprise qui est arrivée sur les médias sociaux, c'était beaucoup plus corpo, puis c'est un peu ça les attentes que les gens avaient envers une institution comme Hydro-Québec. Mais avec le temps, à force de voir un peu comment se jouent, si on veut, les interactions sur les médias sociaux, on s'est permis tranquillement d'agrandir un peu notre carré de sable puis notre palette de couleurs et de tons. Puis on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Fait que ça s'est fait vraiment de manière progressive. Et là, ben, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir des réponses parfois un peu plus drôles, des fois un peu plus baveuses, mais toujours en s'adaptant au contexte. Puis c'est un peu ça la clé. Les gens se disent, hey, Hydro-Québec, c'est tel ton, c'est telle façon de faire sur les médias sociaux. Mais dans les faits, on essaye de s'adapter à chaque situation, à chaque contexte. Fait que des fois, c'est beaucoup plus sérieux. Des fois, ça peut être plus drôle si on pense que ça se prête. C'est vraiment comme ça qu'on est arrivé progressivement.
Les gens disent le ton d'Hydro-Québec, mais il y a autant de tons qu'on a d'interlocuteurs. Dans le
fond. Tout à fait. Il y a des contextes. Et c'est pas simple de toujours trouver la bonne façon de répondre au bon moment.
Exactement. C'est une question qui revient souvent. Hein. Comment on se modère entre nous? Comment on sait jusqu'où on peut aller? Jusqu'où on peut pousser nos blagues quand on doit pas faire de blagues? Bien, en fait, c'est assez simple. Pour nous, la base, c'est le respect. C'est ce qu'on demande des gens qui nous écrivent, puis c'est ce qu'on offre aussi aux gens à qui on répond. Puis évidemment, il y a beaucoup d'empathie. Il y a des situations où on ne fait pas d'humour parce que ça ne s'y prête pas. Là, par exemple, en panne, on ne fait pas de blagues, à moins que les gens vraiment nous ouvrent tout grand la porte. Mais tu sais, nous aussi, quand on a des pannes de courant, ben, on est fâchés. C'est pas le fun. C'est pas le temps de faire des jokes. Fait que c'est sûr qu'on lit la situation. Puis dans le doute, en fait, on a la chance d'être trois maintenant. Donc, on peut toujours valider avec les autres si on a bien lu la situation, si nos collègues comprennent la même chose, si on y va d'une façon un petit peu trop corsée. Puis on est humain. On a des journées où on est plus fatigué ou peut-être qu'on répondrait des choses un petit peu trop acides. Là, heureusement, on est trois, fait qu'on est capable de recadrer tout ça.
On peut dire là, Gab, t'es vraiment trop bête.
Vraiment trop bête. C'est rare que c'est moi qui ai la plus bête.
Gabriel, tu as fait référence aux pannes dans ton dernier commentaire. Effectivement, c'est le sujet de l'épisode qu'on vous présente. Et pour en parler, justement, on reçoit M. Régis Tellier, qui est vice-président opérations et maintenance chez Hydro-Québec.
Salut!
Bonjour Régis.
C'est ça,
bonjour,
je disais, Régis. Je pense qu'il bench plus que moi.
Peut-être qu'on pourra faire un test
après.
Tantôt, vérifier. Ouais.
Donc, Régis Tellier, assez familier avec toutes les questions reliées aux pannes. On parle souvent d'enfouissement, si je ne me trompe pas.
Oui, j'imagine que tu as déjà eu la question aussi. On t'a vu dans les pannes majeures, tu es rendu notre vedette à la télé. Je t'ai vu en entrevue là, sur les lieux de pannes et tout ça. Puis, une des questions qui nous revient le plus souvent sur les médias sociaux, et là, je vais tout de suite aller avec un tweet qu'on a eu de Laura, qui nous dit « À quand l'enfouissement des fils électriques comme dans les pays développés? » Donc, je ne sais pas c'est quel pays exactement. Et je ne sais pas si le Canada est un pays développé, mais en tout cas, au moins à Montréal, les surplus, on pourrait les investir dans le développement d'un réseau moderne. Ils semblent de nature préhistorique avec des poteaux en bois.
OK, good. Ben, c'est une bonne question parce que en fait, il faut savoir qu'on a un réseau qui est enfoui, surtout dans les zones plus urbaines. Une des raisons simples, c'est l'ampleur des coûts que ça pourrait représenter. T'sais, pour vous donner un ordre de grandeur, l'entreprise actuelle, là, c'est 85 milliards d'actifs, mais si on voudrait enfouir notre réseau, ça coûterait 100 milliards d'actifs. Fait que vous voyez, là, c'est beaucoup, c'est 240 km de ligne qu'on a. Fait que d'enfouir ça, ça serait... 240 000. Il manquait de zéro. C'est beaucoup de sous, en fait, ça serait ça. Puis c'est... Ça pourrait aider pour certains au niveau des pannes, mais les délais seraient sûrement affectés parce que ça prend du temps de trouver une panne parce que visuellement, on ne peut pas l'avoir autant que quand c'est un réseau aérien. T'sais, quand une branche tombe sur un arbre, on le regarde, on le trouve. Souterrain, c'est une autre chose. C'est plus compliqué un peu.
Il faut creuser aussi pour aller régler le problème.
Il faut creuser. C'est souvent, on trouve y a l'humidité dans ce type de réseau-là, l'eau qui s'accumule à cet endroit-là. On est dans des espaces plus restreints aussi pour les travailleurs. Ça a d'autres risques aussi qui se rajoutent, mais souvent, on n'est pas capable de localiser. Fait que là, on est obligé de recorbeler complètement entre deux puits d'accès pour être capable de réparer une panne. Donc ça
va être long, j'imagine, compliqué. Les gens nous disent, ouais, mais là, oui, ça coûte cher, mais avec tout l'argent que vous sauveriez en entretien et en réparation des pannes, vous rentreriez dans votre argent?
Ouais, non. Non, ben en tout cas, je ne crois pas parce que, tu sais, en fait, les tarifs seraient assez affectés, là, de mon point de vue, si on voudrait enfouir tout ça.
Mais on le fait. On avait calculé un moment donné, Jonathan puis moi. Puis si on remet 100 % du bénéfice net qu'on donne en dividende au gouvernement habituellement puis qu'on l'investit dans l'enfouissement pour 97 000 km de ligne, ça aurait pris quelque chose comme 80 ans.
Ah, je suis pas surpris. Je suis pas surpris parce que, tu sais, moi, quand je vous parle de 240 1000 km de ligne. Parce que souvent, vous dire, regardez sur un poteau de bois, là, des fois, il y en a qui ont trois lignes. Mm-hmm. Je calcule ces trois lignes-là. Mais okay. Dans les faits, tu as raison. Quand, si on le fait de façon linéaire, c'est environ 100 000 km de ligne.
Puis souvent, les gens aussi disent que ce serait plus écologique, que ce serait mieux pour la nature. Mais imaginez la boucherie. Si on creuse dans le sol sur toutes ces distances-là.
Tout à fait.
Puis l'inconvénient pour les gens aussi.
Oh, les types de sols, les milieux humides, tous les sols qu'on a, qu'il faut récupérer, les analyser, justement pour la contamination des sols. Ça serait une logistique un petit peu plus complexe que le réseau aérien.
Donc, on a un réseau actuellement qui est aérien et les pannes souvent sont provoquées par le contact de la végétation sur les fils. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous reproche aussi.
Ben oui. C'est un autre enjeu qui vient avec l'étendue du territoire. Les travaux de d'élagage. On a un Roberto qui nous dit « Vous refusez de faire de l'élagage, mais vous réparez et vous exposez ces pauvres techniciens dans des situations si difficiles, alors que l'élagage allait tellement empêcher des pannes et allait vous faire économiser tellement d'argent. »
Ben, on en fait tous les jours. On a beaucoup d'équipes qui font du déboisement, de l'émondage, élagage. Donc, dépendamment de la situation, des fois, ça peut aller jusqu'à des coupes d'arbres, des arbres à risque, entre autres. On va préférer des fois faire du déboisement à ce niveau-là. Des fois, on va juste respecter parce que ça reste qu'il y a des lois au Québec, la loi sur les arbres, entre autres. On peut pas couper les arbres comme qu'on veut. Donc, on veut être dans le bon équilibre entre le service public qui est donné, mais aussi les arbres ou qu'est-ce qui est en ligne, qui est allé au propriétaire là, de sa résidence. Donc, c'est cette équipe-là qu'on recherche, mais on en fait beaucoup. Puis dans les faits, on a doublé les investissements. Là. Donc, on a vraiment augmenté, surtout dans des zones, entre autres les Laurentides, la Montérégie, où il y a beaucoup de densité d'arbres. On a vraiment doublé des investissements. Là,
t'aurais-tu un ordre de grandeur à peu près? On fait combien de kilomètres d'élagage par année à peu
bon,
près?
On fait environ, moi, je calcule ça en portée. Là, c'est entre deux poteaux de bois. Là, c'est environ 200 000 portées qu'on va faire. C'est environ entre 60 75 000 là, d'arbres abattus, là, des arbres à risque.
Dans les tempêtes, c'est ça qui arrive. Même si on fait de l'élagage, c'est pas comme une petite branche là, qui tombe sur le réseau qui va le briser. Là, on l'a vu pendant les événements climatiques récents, c'est des arbres qui sont carrément déracinés, qui tombent sur le réseau, puis les gens nous écrivaient « Ah, votre réseau n'est pas solide », puis moi j'aimais ça dire à la blague, en fait, c'est les arbres qui sont pas
c'est
solides.
C'est le réseau d'arbres,
Le réseau d'arbres, on pourrait l'enfouir, là. Non, mais sans blague, c'est vraiment quand les arbres tombent carrément sur nos fils que ça cause des problèmes, puis ça, à moins d'enlever tous les arbres à proximité du réseau, il n'y a rien à faire.
Mais il faudrait aussi enlever les trampolines, j'ai entendu dire.
Ouais, des abris tempo, des trampolines, on a vu des toiles, on a vu différentes...
Les cabanons.
Ouais, tout à fait.
Mais
tout à fait.
Je suis pas sûr qu'on pourrait avoir l'unanimité pour faire une voie d'à peu près 100 mètres de large autour de chaque ligne. Non, des Laurentides, là. Tu fais 100 mètres de large autour des lignes, plus d'arbres.
Non. Dit-il avec un brin d'ironie, vous aurez compris. Les délais de rétablissement, c'est quelque chose aussi sur lequel on se fait interpeller.
Hein. C'est souvent le cœur des questions qu'on reçoit hein, pendant les pannes. C'est quand est-ce que l'électricité revient chez nous? Puis c'est difficile de donner un délai de rétablissement quand il y a des gros événements climatiques parce qu'en fait, il faut que les gens, nos équipes, se rendent sur le terrain, évaluent les dommages, on voit ce qu'il y a à faire. Tu sais, pendant la dernière grosse panne, en fait, là, il y a eu des problèmes d'arbres déracinés. Ça prenait vraiment beaucoup de temps pour que les gens puissent même se rendre au fil sur le terrain. Donc, je vais te lire deux genres de tweets qu'on reçoit. Il y a Lord of Kevs qui nous avait dit « 2 heures depuis la panne, aucun délai avant le rétablissement. Update, s'il vous plaît. » 2 heures, c'est... Il a été quand même... Il avait hâte d'avoir son électricité, mais bref, c'est vrai que c'est difficile sans délai. Et il y a Julie qui nous avait dit « Votre site web m'indique que vous avez une équipe au travail. Pourquoi après plus de 4 heures, il m'est toujours impossible d'avoir une idée du délai de rétablissement? Peux-tu nous expliquer comment ça se passe? Toi, t'as pas une alerte qui dit... Ah, il y a un arbre tombé devant la maison à Julie, j'envoie une équipe. Comment ça se passe à ton niveau, puis qu'est-ce qu'on fait?
Oui, parce que de façon générale, on a, sur notre site, on a l'infopanne qui est capable de donner un approximatif là, de rétablissement. Mais quand il arrive des pannes plus majeures, c'est là que ça devient plus difficile parce que souvent, là, c'est les artères principales qui sont touchées. Donc, tantôt, quand je vous parlais de 3 fils là, un peu, bien, ça, vous voyez là, comme ça, c'est l'autoroute. Là, nous, c'est notre moyenne tension qui est là. On va tout le temps prioriser en fonction de certains facteurs. Bon, la sécurité du public, c'est notre premier facteur, les hôpitaux. Ensuite, on va vouloir chercher à rétablir le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible. Fait que souvent, cette voie-là plus importante, bien, c'est celle-là qu'on va prioriser. Après ça, quand on est dans les voies secondaires, là, vous allez regarder un fil, là, soit devant votre maison, vous allez voir, il y a juste des fois un fil simplement. Bien, ça, souvent, c'est que moins, il y a moins de résidence attachée à ça. Donc, nous, qu'est-ce qu'on regarde? On y va par séquence de priorisation. Et c'est sûr que des fois, la première étape, vous allez voir sur les lieux, c'est quoi l'ampleur des dégâts. Et là, la grosse question, c'est est-ce que la tempête, elle est finie ou elle est toujours en cours? Parce qu'elle est toujours en cours, de permettre à un monteur de ligne de monter à l'intérieur de sa nacelle, qu'on appelle l'équipement, là, qui permet d'aller, des fois, prendre prendre conscience de certains travaux, ça peut être très dangereux pour le travailleur. Fait qu'on va s'assurer aussi que tout l'environnement sous contrôle pour être capable d'intervenir de façon sécuritaire, mais c'est la première étape à faire. Parce qu'une fois qu'on a identifié les travaux, c'est pour ça des fois, il y a des citoyens qui vont dire « J'ai vu quelqu'un d'Hydro-Québec qui est arrivé dans votre chez moi, il a fait une observation, il a fait peut-être des fois une manœuvre avec une perche, puis il est reparti, il n'a pas branché. » Mais soumis, il travaillait sur le réseau plus principal qu'on appelle. Et puis ça, c'est correct, parce qu'en faisant ça, ils viennent peut-être de rétablir. Mais en rétablissant beaucoup de clients, ça a fait apparaître de nouvelles pannes. Et ces nouvelles pannes-là, il faut aller être capable de les regarder et de voir est-ce que dans le cycle de priorisation, à quel niveau ils s'inscrivent.
Et qu'est-ce que tu veux dire apparaître de nouvelles pannes? Le fait de rétablir les courants a brisé quelque chose d'autre sur le réseau?
Ouais, non, bien, le défaut est toujours là. Il est là, mais en rétablissant le courant, ça donne de la visibilité sur cette panne-là. Fait que, peut-être en rétablissant, on est venu rétablir 500 personnes. Mais on a vu qu'il y en avait 50 qui étaient pas rétablis.
Il y avait un autre bris ailleurs qu'on voyait pas.
Un autre bris qui était là. On arrive sur place, on se réalise une branche. Et là, ben, là, on découvre que ça, c'est une station de pompage pour la ville. On va venir la prioriser. Ben, non, on va découvrir que cet arbre-là peut nuire à la sécurité du public. On va faire un appel de service et on va la prioriser. Donc, c'est ça qui fait en ça.
Vous êtes obligé de changer vos priorités, déplacer les équipes.
Toujours. Nous, on a des équipes 24 heures sur 24. Ça se fait en temps réel en fonction de toute l'information qui rentre. C'est toute une repriorisation. C'est pour ça que c'est très difficile d'arriver à un client et lui dire ben moi, je te promets que d'ici 4 heures, ça va être rétabli. Parce qu'à l'intérieur de 4 heures, il y aura beaucoup de nouveaux intrants en fait, qui amènent à reprioriser par rapport à d'autres priorités qui sont données.
Fait qu'à ce moment-là, c'est quand qu'on est capable de donner un délai et de le respecter?
Oui, bien, plus qu'on avance avec l'ampleur des travaux, parce que c'est sûr que des fois, on arrive, puis l'ampleur des dégâts sont importants. Tantôt, j'entendais des branches tomber. Ça, on a une bonne idée. Mais quand on fait affaire à des arbres ou des poteaux cassés, là, ça prend une autre sorte d'ampleur. Là. Parce que des fois, on va arriver, on va vouloir remplacer le poteau, puis on peut pas le remettre dans le même endroit qu'il était. Là, on est obligé de le mettre à côté, puis là, on réalise qu'il faut creuser dans la roche. Bien, creuser dans la roche, après, il faut faire venir une espèce de foreuse avec un haut diamant, tout ça, c'est beaucoup plus complexe comme travaux, ça va beaucoup, beaucoup plus de temps. Mais tant qu'on n'a pas cette information-là, c'est dur d'avoir cet engagement-là.
En matière de panne, quel est le pourcentage de panne qu'on peut attribuer au contact de la végétation sur nos fils?
Un ordre de grandeur, ça environ 40 % des pannes qui sont associées à la végétation. Mais tu sais, parce que des pannes, on en a tous les jours. Puis ça, c'est pas des nombres importants, mais ça peut être différents facteurs. Souvent, celui qu'on a beaucoup de visibilité pour le public, c'est quand il arrive des événements météorologiques. Là ça, on voit, c'est la végétation, entre autres. Donc, le 40 % tient compte aussi des pannes de grande ampleur. Il y en a d'autres aussi, ça fait drôle à mentionner, mais c'est les petits animaux. C'est aussi simple que des fois, il y a des écureuils qui peuvent arriver, puis là, des fois, ils vont aller sur nos petits transformateurs, la petite boîte grise là, qui est sur le poteau, puis il va faire contact entre notre fil et le transformateur, puis là, automatiquement, bien, ça crée une panne. Bon,
parce que Gabriel avait un exemple de commentaire qu'on avait reçu là-dessus.
Il y a quelqu'un qui nous l'avait souligné, ça. Hein? Josette, elle nous avait dit il y a quelques années, une corneille s'était posée sur un fil vivant. Je ne sais pas c'est quoi. Et elle n'a pas survécu, elle est devenue une crispy critter. Ça avait évidemment causé une panne d'électricité dans mon coin. Et là, attention, ses amis corneilles étaient venus lui faire des funérailles.
Ah oui, bon. Oui, parce que ça, nos travailleurs, souvent, on arrive à des endroits pour des pannes, puis on envoie des petits animaux.
Si vous avez des funérailles faites par des corneilles...
Corneilles?
Il y a des corneilles, mais non, on n'est pas... malgré qu'on est empathique à la situation, là, c'est quelque chose qu'on découvre, mais ça, c'est un bon exemple. C'est pour ça qu'on a un plan ambitieux de réduction des pannes, et nous, souvent, là, c'est des petites sections entre le transformateur puis le fil qu'elle appelle vivant, là, c'est le fil qui est sous tension, puis des fois, vous regardez, il y a un fil qui est dénudé, là, lui, c'est le plus dangereux. Là. Souvent, c'est ce petit contact-là. Fait que là, on est venu gainer, on est venu mettre des équipements pour protéger ces petits moments-là où il peut avoir contact. Parce que vous voyez, des fois, il y a un oiseau qui marche sur le fil, puis hop, il marche, puis il n'y a pas l'air d'être...
Fait que message à tous les écureuils, tout c'est correct. Ce secteur-là qu'il faut éviter.
Et les corneilles. Ouais, fait qu'on peut réduire les décès chez les corneilles grâce à ces fils gainés-là. Moi, il y a un commentaire qu'on a reçu, puis qu'on reçoit souvent lorsqu'il y a des pannes, puis même dans plein d'autres sphères des activités de Québec. Puis je vais en profiter pour utiliser ce que tu connais pour tout le travail qui est fait pour nous éduquer un peu là-dessus. Il y a quelqu'un qui dit, dans le fond, je ne remets pas en question les équipes sur le terrain, mais bien la gestion des pousseux de crayons. Donc, les pousseux de crayons, tu sais. Donc, les gens...
Ça, c'est moi, ça. Ça, j'en fais partie.
Parce que dans le fond, j'ai l'impression que les gens, ils pensent des fois qu'on ferait juste lancer comme plein de monteurs de lignes dans la nature, puis ils vont tout arranger.
Mais
il me semble qu'il y a une organisation
une
derrière
de garage,
ça. C'est quoi la logistique que ça... C'est quoi la logistique que ça prend pour pouvoir réparer, tu sais, une panne d'une grande ampleur? C'est les personnes derrière, là, qu'est-ce qu'ils font?
Tu veux dire, mettons, ceux qui sont plus les pousseaux de crayon pour soutenir.
Ben, c'est surtout la logistique. Tu sais, c'est quoi, t'aurais-tu des exemples de tous les autres postes, tous les autres emplois qui sont nécessaires pour mener à bien une mission de rétablissement de panne?
Ben, toute la quincaillerie que ça prend pour rétablir, donc les câbles, toutes les bottes, les vis, les équipements spécialisés, ben, ça prend des entrepôts. Donc, on a des gens qui s'occupent du matériel pour être capable de livrer. Puis on a différents points de service un peu partout au Québec. Où est-ce que nos travailleurs, quotidiennement, travaillent ensemble pour être capables de fournir, entre autres, le matériel nécessaire pour la réparation ou le branchement même d'une nouvelle résidence. Il y a également toute la gestion de notre parc de flotte de véhicules. Fait que nous, on a des équipements, on appelle ça, c'est comme une flotte spécialisée, les nacelles qu'on voit souvent. Mais ça prend son entretien, ça prend des réparations. Des fois, il y a des conditions pas toujours évidentes pour être capable de se rendre à notre réseau. Ça prend ce type d'équipement-là. On a des gens aussi qui travaillent nos outillages. Tantôt, j'entendais une scie mécanique. La scie mécanique, des fois, il faut la réparer, il faut être capable de l'entretenir. Donc, on a aussi des équipes spécialisées pour faire cet entretien-là. Il y en a aussi qui vont tous prévoir nos centres d'urgence. Quand arrive des situations comme ça, il y a toutes des équipes. Il faut les nourrir, il faut les loger. Les monteurs, surtout quand il y a des grosses pannes, on déplace nos gens au niveau de la province. Puis ça prend toute cette logistique-là pour être capable de trouver des chambres d'hôtel, puis être capable de pouvoir leur donner la nourriture nécessaire. Puis souvent, l'hôtel, des fois, n'a pas de courant. Donc, ça, c'est une réalité qu'on fait face. Donc, il y a des gens comme ça, ou les opérateurs, tantôt, quand je disais les priorités, les gens qui sont 24 heures sur 24, eux autres, ils voient tout ça là, en temps réel, puis sont capables de prendre des décisions, des gestes pour être capables de prioriser aux bons endroits les interventions qui sont à réaliser.
Donc, ça, c'est les gens au centre de coordination qui vont avoir comme une vue d'ensemble, si on veut. C'est eux qui vont un peu prendre les décisions sur OK, là, on va aller travailler sur cette panne-là en premier, puis après, ça, on va faire elle.
Tout à fait. Ouais. Puis là, vous pensez à tout ce qui vient avec ça. Il faut faire les achats de ces équipements-là, il faut parler aux gens. Donc, toutes les gens qui sont des fois avec les près des municipalités pour leur donner de l'information, ça c'est aux pannes. Il y a les gens aussi sur les médias sociaux pour donner de l'information. Donc, il y a toute une équipe là, quand il arrive des situations comme ça qui
est mobilisée. On est-tu des crayons ou des pousseux de touche, nous?
Ben, écoute, je pense qu'il n'y a plus bien de crayons qui s'utilisent dans les faits. Mais...
Puis, on voit le monteur, là, mais tu sais, on a aussi des gens qui sont dans le souterrain des jointeurs, on a aussi des gens qui vont s'occuper des compteurs qu'on a chacun au niveau de. Donc, c'est plusieurs métiers spécialisés.
Mais quand il y a question de panne, bien sûr, les gens sont toujours impatients, on peut comprendre. Quand ça nous arrive, on vit la même chose.
Ils sont impatients, mais par contre, je dirais que d'un autre côté aussi, c'est le moment où on reçoit le plus de commentaires positifs et d'encouragement. Là. Beaucoup, beaucoup de remerciements, puis bravo les équipes. J'ai vu vos gars sur le terrain, puis ça travaille dur, tu sais. Faut le dire quand même, parce que des fois, on regarde toutes les critiques qu'on peut recevoir, mais vraiment, le travail des gens lors des pannes est vraiment très apprécié.
Dans les commentaires parfois qui font sourire, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut peut-être prévoir davantage l'imprévisible.
Oui, il y a peut-être des gens qui confondent les interruptions planifiées avec les pannes parce qu'on avait reçu un commentaire d'un junior qui disait « La panne du 28 novembre à Laval, vous auriez pu nous aviser.
» OK, oui. Oui, tout à fait. C'est deux choses. Parce que souvent, les interruptions qu'on planifie, c'est pour faire des travaux de maintenance. Donc, à un moment donné, ces équipements-là, il faut les entretenir, il faut être capable de les réparer. T'sais, en fait, il faut intervenir avant qu'il y ait une panne sur dessus. Mais des fois, en le faisant de façon planifiée, on est capable de trouver le meilleur positionnement, soit dans la semaine ou dans l'heure de la journée, là, pour être capable de faire cette interruption-là. T'sais, on ne va pas aller faire ça le matin à 6h30, 7h, quand le monde se lève, font leur café puis font tout. C'est pas la meilleure place qu'on va faire ces interruptions-là. Mais oui, mais ça, il y a une distinction à faire entre celles qui sont planifiées et celles qui sont.
De par sa nature, une panne, ça se prévoit pas vraiment.
Exactement. On ne peut pas aviser les gens d'avance qu'il y aura une panne, non?
On peut essayer.
Ça prendrait peut-être
une boule de cristal.
Mais on a des gens qui regardent la météo, par exemple, tu sais, puis des fois, on est capable d'anticiper un peu. Comme la dernière fois, c'est ça, nous, déjà, on avait de l'information le samedi vers 16h, qu'il y a de quoi qui rentrait par la région de Gatineau. C'était des vents violents, donc on anticipe comme ça. Mais ça reste à quel endroit, quel arbre, ça...
Mais ça fait partie un peu de notre équipe de pousseux de crayon, là, les météorologues, puis les gens qui sont toujours en train de nous aviser, parce que, tu sais, on est prêt. Là. Quand il y a une panne, on n'est pas « il y a une panne, personne ne l'a vu venir ». Non, on est prêt. On a des équipes qui sont mobilisées. On est prêt à agir rapidement grâce au travail fait en amont par notamment les météorologues.
Tout à fait. En fait, c'est notre métier. On le maîtrise et on a toutes les compétences nécessaires aussi pour faire...
Mais je pense qu'on ne trouvera pas plus de gens obsédés par regarder la météo que chez Hydro-Québec. Avant quand ils annoncent une tempête, là, tout le monde est comme... On est tous sur notre téléphone ou sur l'ordi à regarder la météo compulsivement. Comme je veux-tu avoir un week-end ou pas?
Il y a aussi dans les pannes, parfois, on voit que les gens autour de nous ont de l'électricité, mais ce n'est pas le cas chez nous. Ça fait partie des commentaires qu'on reçoit à l'occasion.
Oui, ça, c'est la configuration du réseau, tout à fait. Là. Il peut y avoir quelqu'un que, selon leur type de branchement, il y a un secteur qui a été rétabli, mais la ligne de séparation se fait dans la rue. Donc, les gens de l'autre côté de la rue, les autres n'en ont pas parce qu'ils sont raccordés sur un autre, un point de raccordement qui est différent. Là. Donc, des fois, enfin, c'est ça, des fois, je dis en blague à mes voisins, tu sais, ben, quand vous demeurez proche d'un hôpital, il y a des bonnes chances que le courant revienne plus vite que si vous restez à côté de votre chalet, à un endroit bien loin, disons, des services publics. Là.
Ça fait pas mal le tour des commentaires qu'on avait à proposer à M. Tellier. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez aborder avant qu'on
se quitte? Ben, je pense qu'honnêtement, après avoir écouté cet épisode, on ne recevra plus un seul commentaire sur les fans, sur les médias sociaux.
Nous, on n'aura plus de travail. Là,
c'est ça. Notre job est fini, guys.
N'y comptez pas trop.
Non, c'est ça, ça me surprendrait.
Régis Tellier, merci beaucoup d'avoir été notre premier invité pour cette nouvelle série Balado. Quant à vous, faites le tour, parce que dans la liste, il y a des sujets intéressants, les exportations, les innovations et aussi l'électrification des transports.